Et nous allons reprendre nos études dans le livre des l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc l'épître de Paul aux Éphésiens et au chapitre 2. Nous étions sur le verset 10 dimanche dernier. Et donc nous allons partir, commencer à verset 11. Éphésiens chapitre 2, versets 11 jusqu'à 18. Et le thème de cette étude, c'est Jésus, notre paix. Jésus, notre paix, expression que nous trouvons au verset 14. Il est notre paix. Donc Éphésiens chapitre 2, et je commence à lire au verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ce matin, nous n'allons pas pouvoir traiter de tout ce qui est mentionné ici, mais il y a cet premier aspect qui domine là. C'est cette pensée d'une réconciliation, de paix. Il y avait séparation, deux groupes qui étaient très séparés l'un de l'autre, et que le sang de Christ a pu rapprocher. Vous savez, la beauté de l'Église de Jésus-Christ est qu'elle soit composée d'hommes et de femmes régénérés, qui ne sont plus ce qu'ils étaient, mais des nouvelles créations en Jésus-Christ. Ça, c'est le côté extraordinaire. La faiblesse de l'Église locale, eh bien, est qu'elle soit constituée d'êtres humains qui ne sont pas encore délivrés de leur ancienne nature pécheresse, et pour cela, ont encore des comportements qui nous déçoivent, et par lesquels même je peux vous étonner. Dans l'Église de Jésus-Christ, ce sont des êtres transformés. Mais au niveau local, et chaque niveau local, eh bien, c'est une Église qui est en transformation. Donc on est tous à des stades différents de transformation. Et donc il reste encore des traces de la vie passée. Et donc c'est à nous de le comprendre, d'en tenir compte, d'être patients les uns avec les autres. Et comme le Seigneur est patient avec nous. Malheureusement, parfois, ce n'est pas seulement la nature pécheresse qui est là et qui nous dérange, mais parfois, nous avons aussi hérité des choses du monde et des influences du monde et qu'on apporte dans l'Église aussi. Et les problèmes de l'extérieur, on les amène dans le cadre de l'Église locale et ça crée des problèmes aussi. Et c'était un peu cette situation qui se trouvait là à Éphèse, entre autres, c'était ailleurs aussi, mais il y a cette église qui est composée de gens qui sont juifs d'origine et puis d'autres qui sont non-juifs. En dehors des portes de l'église, ils n'avaient rien à faire les uns avec les autres. Et puis tout d'un coup, on les retrouve dans l'église. Et le problème, c'est de finalement avoir la même situation dans l'église. Mais là, bien sûr, comme vous l'imaginez, ce n'est pas normal. Il y a certaines choses qui sont à l'extérieur, que quand on rentre, elles ne sont plus là. qui ne doivent plus être là. Et certaines choses, ces marques, ces empreintes du péché doivent disparaître. Et donc, l'une des traces de l'œuvre de Christ dans l'Église, c'est le fait que quand ce monde se réunit, eh bien, il n'y a plus les divisions qu'il y a dans le monde. Et vous savez, notre monde, vous êtes assez âgé et vous êtes assez jeune pour savoir que c'est divisé dans tous les sens. C'est divisé au niveau de la famille, c'est divisé au niveau de la région, c'est divisé au niveau de nation, c'est divisé au niveau de l'international. Les divisions sont dans tous les sens et on en souffre terriblement. Il dit, mais ça, c'est quelque chose qui fait partie du monde et qui ne doit pas se retrouver dans l'Église. Et c'est une chose que Dieu veut traiter. La première chose qu'il souligne ici dans le passage, c'est que l'unité, ce n'est pas quelque chose que nous devons créer, mais l'unité, c'est une chose qui existe et que nous devons intégrer. L'unité a déjà été établie par Jésus-Christ. Dans l'Église, l'unité est là. Maintenant, c'est à nous d'entrer dans cette unité. Vous avez peut-être, vous souvenez, au chapitre 1, verset 1, l'apôtre Paul adresse cette lettre, il dit « aux saints qui sont à Éphèse ». Sans faire de distinction, il les appelle tous des saints. Donc pour lui, dans la pensée de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous sommes un corps, tous. Et il ne fait pas de distinction. Et dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de distinction. Et donc, c'est à nous de nous aligner sur la pensée de Dieu et non pas à Dieu d'essayer de voir comment il peut gérer les problèmes que nous avons. Nous pouvons très vite découvrir que l'église d'Éphèse est composée d'un amalgame de gens, de toutes sortes d'arrière-plans, qui provenaient de milieux très variés, mais ils représentaient l'église de Jésus-Christ à Éphèse. Il dit aux saints qui sont à Éphèse, c'est-à-dire qu'il y a des saints ailleurs aussi, mais voilà, ceux-là sont à Éphèse. Et ils ont leur particularité. Chaque église locale a sa personnalité, a sa particularité. Elle est composée de certaines personnes et c'est ça qui fait, tout comme nos familles, chacune a sa particularité. Mais ici, et si nous regardons un peu dans Actes chapitre 19, là où nous parle de la création de cette église à Éphèse, eh bien, nous allons voir qu'il y avait une douzaine de personnes qui avaient cru au message de Jean-Baptiste et puis ensuite qui avaient quitté le territoire et n'avaient pas entendu parler de Jésus-Christ ni surtout du Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres. Eux, ils étaient encore avec le message qu'ils avaient reçu de Jean-Baptiste. Et donc, eux sont là, à Éphèse. Nous voyons aussi dans Actes 19 et les versets 8 à 10, parce que l'apôtre Paul avait l'habitude d'entrer dans les synagogues. Quand il entrait dans une ville, il rentrait dans la synagogue. Donc dans la synagogue, il trouvait et les juifs et ceux qui s'étaient convertis au judaïsme. Et il a commencé à prêcher dans la synagogue. Et certains ont cru et certains ont suivi. Il y avait aussi ce qu'il appelle les gens de l'extérieur qui avaient entendu parler de l'apôtre Paul et son message, et ils avaient vu les miracles de l'apôtre Paul et son équipe. Ils avaient même vu des esprits mauvais être chassés de personnes. Et tous ces gens-là, il nous dit, et les juifs et les grecs. Et le mot « les grecs », ça veut dire « tous les autres ». Et beaucoup avaient cru en voyant l'œuvre de Dieu qui agissait parmi ces personnes. Et puis après, il y avait aussi, dans le chapitre 19, vous avez les versets 13 à 20, vous avez les gens qui étaient dans la magie avant, et juifs et non-juifs, qui étaient dans la magie. et qui, en entendant le message de Christ, étaient venus, et ils avaient cru, ils avaient pris tous leurs bouquins du passé et ils les avaient brûlés et pour entrer dans l'église de Christ. Et puis aussi, nous avons à Éphèse, c'était la ville où il y avait le grand temple de la déesse Diane, et il y avait ceux qui avaient abandonné cette religion, cette croyance, cette pratique, pour venir dans l'église, et ils étaient tellement nombreux que ça menaçait le commerce des fabricants de déesses et de tout ce qui s'y rapporte. Donc, vous avez ces gens de toutes sortes d'arrière-plan qui, par la foi, sont rentrés et composent l'église. Des gens qui, peut-être, par ailleurs, se seraient croisés qu'au marché, mais là, ils se retrouvent dans une église. Et l'apôtre Paul, il dit, bon, d'un côté, c'est ça qui crée la situation extraordinaire, mais c'est ça la beauté de la chose aussi, c'est que tous ces gens-là sont réunis. Et c'est en l'église de Jésus-Christ qu'on peut se réunir. Toutes ces personnes n'avaient rien de commun avant et maintenant elles se trouvent dans une église. Et ils doivent vivre en harmonie et vivre une même vie. Et l'apôtre Paul appelle ces gens-là, cet amalgame, ce groupe hétérogène qu'on pourrait dire, les saints qui sont à Éphèse. Et donc, on pourrait même se regarder les uns les autres et dire, oui, ben, c'est sûr que si ce n'était pas pour ici, normalement, on ne se croise pas. Mais c'est ce désir, c'est l'amour de Jésus-Christ qui nous attire. Et je me souviens, à Saint-Denis, on parlait, on disait que dans l'église, on avait tout ce qu'on trouve dans le métro parisien, on l'avait dans l'église. Mais c'est à ça la beauté de la chose aussi. C'était peut-être, je me souviens, il y avait le voisin, il disait un jour, un dimanche matin, je suis arrivé un peu de bonne heure, il était là devant chez lui, et puis il me dit, comment vous faites? J'ai dit, vous faites quoi? Il me dit, comment vous faites? J'ai dit, mais de quoi? Il dit, mais comment vous rassemblez tous ces gens-là? Et ils ont l'air de s'entendre, et ça va bien, vous n'avez pas de problème, tout va bien, je vous observe. Il dit, comment vous faites? Je dis, moi, c'est pas moi, c'est l'amour de Dieu. Ah, il dit, non, ne parlez pas de Dieu, tout ça. Il dit, comment vous faites? Je dis, mais écoutez, moi, c'est la seule réponse que j'ai, c'est l'amour de Dieu, c'est l'œuvre de Christ hein, dans les cœurs. Il dit, non. Il dit, parce que moi, j'étais un gradé dans la Légion étrangère. J'avais affaire avec des gens de partout. Il a dit, on avait des problèmes, oh là là. Il dit, mais moi, je vois, vous avez ces gens-là avec qui moi, je travaillais, et puis chez vous, ils s'entendent. J'ai dit, bah, c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est ça le témoignage, c'est ça la beauté. Et c'est un peu ce que, si on a à l'église d'Éphèse, c'est un mélange de gens pas possible, des gens qui se haïssaient avant et qui maintenant se retrouvent ensemble. Un juif, il ne voulait pas serrer la main à un païen parce que ça le salissait la main. Et maintenant, ils doivent s'embrasser. Vous savez qu'il y a un changement. Et ça, ça se mesure. Ça s'évalue. Ça se constate. On n'a pas besoin d'être un enfant de Dieu pour le constater. Et tout ce monde très varié par ses pratiques, ses origines, ses cultures, ses croyances, maintenant ne forme qu'une communauté. Et il y a une unité qui se crée. Mais ce n'est pas eux qui la créent, parce qu'il n'y avait rien pour la créer. Mais c'est l'unité qui existait, c'est celle qu'a mentionné Jésus-Christ dans sa prière de Jean chapitre 17. Il a dit, Père, qu'ils soient un comme nous sommes un. Et il l'a demandé. À Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'était pour rendre cette unité possible. À partir du moment qu'on était introduit dans le corps de Christ par l'Esprit Saint, l'unité existait. Et donc, c'est pas ces gens très variés qui créaient l'unité. C'est pas parce qu'on est dit, bon, on va faire semblant, on va essayer de travailler là-dessus, on va plus faire comme ça, on va faire... Non. C'est en s'approchant de Dieu, en voulant plaire à Dieu, en voulant vivre pour Dieu, tout d'un coup, on se retrouve mais on est unis, on s'aime. Et c'est quelque chose, c'est une chose naturelle qui se révèle. Jésus avait dit, et sa prière c'était, que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et maintenant, c'est une question de s'intégrer dans cette unité pour laquelle Jésus a prié et qui est rendue possible par le Saint-Esprit qui est descendu à Pentecôte. Donc, l'unité est existante. Maintenant qu'elle existe, alors pratiquement, eh bien, nous voyons que cette unité est rendue possible. Il y a ce que Dieu déclare, puis ensuite il y a sur le terrain où il faut faire le travail. Vous savez, c'est seulement dans les histoires pour enfants qu'il y a des baguettes magiques, et puis on touche et tout s'arrange, tout se met en place. C'est un peu ce qu'on nous raconte pour la création du monde aussi. Boum, un big bang, et puis tout se met en place. Tu sais, c'est, pour les enfants, c'est intéressant. Mais pour des gens raisonnables, ça ne se passe pas comme ça. Si ça existe, c'est parce qu'il y a une pensée derrière, il y a un cerveau derrière, il y a un concepteur derrière pour avoir de l'ordre. Et s'il y a une unité, parce que vous savez combien l'unité, c'est fragile chez les humains. Et si l'unité existait, c'est parce qu'il y a derrière, il y a une pensée. Il y a quelqu'un qui lui est un, et qui peut influencer dans ce sens. Le gros problème qu'il va traiter ici, il va se servir comme illustration, c'est ce sentiment de supériorité qu'avaient les Juifs par rapport aux païens, aux non-Juifs. Si on n'était pas Juif, on était païen. Hein, donc c'était le... Et eux, ils avaient développé, et ce problème existait depuis des siècles, parce que Dieu les avait choisis, les avait confiés sa parole et un message qu'ils devaient porter aux autres. Et puis eux, ils étaient contents de l'avoir, ils l'ont gardé pour eux, et ils l'ont pas. Et puis finalement, ils ont eu cet esprit de supériorité par rapport aux autres. Et donc, c'était pas ce que Dieu avait voulu. Et l'expression qu'ils employaient, pour les Juifs, ils disent, nous sommes les circoncis, et vous êtes les incirconcis. Et c'est comme ça qu'ils se distinguaient. Mais vous remarquez dans ce verset 11, Éphésiens chapitre 11, comment Paul dit la chose. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Mais regardez ce qu'il dit des Juifs, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Il ne dit pas l'œuvre de Dieu. Il dit, ils le sont dans la chair. Finalement, ça ne garantit rien du tout. Ils sont peut-être circoncis, il y a une trace, il y a une marque dans la chair, mais il a dit, mais ça, c'est les hommes qui l'ont fait. Et de là, nous voyons l'apôtre Paul qui relève en fait ce que Jérémie déjà avait dit. Il a dit, vous avez besoin d'une circoncision du cœur. Et l'apôtre Paul reprend cela dans Romains chapitre 2. Il dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc il a dit, oui, ils sont fiers de ceux-là, mais en fait, c'est rien du tout, n'importe qui peut faire ça. Et puis de nos jours, il n'y a pas seulement les juifs, mais il y a tous les musulmans aussi qui le sont. Hein, ça prouve rien du tout. Et puis il dit aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 11, il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il dit, la circoncision spirituelle, c'est lorsque tout ce qui est de la chair est enlevé et on garde ce que Dieu a créé. L'homme tel qu'il était à la création est à la gloire de Dieu. C'est ce qui a été, ce que le péché a amené par la suite qui est le problème. Et il nous dit aussi, il dit, bon, vous, païens, voilà, d'accord. Souvenez ce que vous étiez au verset 12, en ce temps-là, sans Christ, mais parce que les Juifs ne leur ont pas parlé du Messie qui doit venir. Donc ils étaient sans Christ. Le problème, c'est que même si on n'a pas été informé, même si on est sans Christ, on n'a rien du tout. Pour lui, il a défini où on a Christ, où on est sans Christ. Et ça, c'est le message. Et il n'y a pas moyen de venir à Dieu par autre chose. C'est ou en Christ, ou on n'a rien. Il dit, vous étiez sans Christ, privé du droit de cité en Israël, parce que les Juifs ils disaient, non, 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 vous n'avez rien à faire avec nous, restez dehors, on ne veut pas de vous. Il dit, vous étiez étrangers aux alliances de, les promesses, de la promesse, c'est-à-dire Dieu avait fait des promesses à Abraham, et eux, ils avaient tout pris pour eux, alors qu'Abraham, quand la promesse a été faite à Abraham, il dit, et toutes les nations seront bénies en toi. Mais eux, ils ont pris ça, et nous, notre nation sera bénie en lui. Et ça crée toujours des problèmes. Quand on transforme la parole de Dieu, quand on fait dire à Dieu autre chose, ça crée toujours des situations difficiles. Et c'est un peu pour ça qu'on a peut-être toutes sortes de choses, même sous le nom de christianisme, on a toutes sortes de salades. Hein. Et elles ne sont pas très bien composées non plus. Il dit, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous aviez des divinités, il ne manquait pas. Oh, il dit, quelqu'un a dit qu'à l'époque, il était plus facile de trouver un Dieu que de trouver un homme. Mais il dit, vous étiez sans Dieu. Vous aviez des divinités, mais vous n'avez pas de Dieu. Sans espérance. Et parce qu'il n'avait pas, il n'était pas dans Israël, mais même Israël se privait eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes s'étaient éloignés de Dieu. Croyant qu'ils étaient, ils disaient, nous on est descendants d'Abraham, et alors ben, on est descendants d'Abraham, il a dit, et alors? Ça ne change rien, c'est ici, il n'y a pas le changement de cœur. Et vous savez, ce n'est pas dans la religion, même chrétienne, qu'on trouve Dieu. C'est dans la Bible qu'on trouve Dieu. Et on peut toujours commencer sa recherche en regardant ses ouvrages, dans la nature. Si vraiment, on ne sait pas, on dit, je veux commencer à la base. Je veux chercher, mais dès le début, il suffit d'aller regarder la nature. Comme on regarderait un tableau et on fait la connaissance d'un artiste. On regarde la nature, et j'aime beaucoup le faire, et puis par ici on est gâté à ce niveau. Hein. Quand j'étais à Paris, c'était autre chose. Même les arbres n'étaient pas verts, avec la pollution. Mais ici, on a la beauté de la chose. Et on regarde, on dit, mais, et ça? Celui qui a créé ça, il a au moins ça. Il doit être beau. On peut pas, si on ne l'a pas, on ne peut pas le produire. Et s'il y a de l'ordre, c'est que celui qui l'a produit est ordonné. Et on commence par là. Il dit on peut commencer à connaître certaines choses concernant Dieu en regardant. Il nous dit dans Romains chapitre 1, il nous dit qu'on peut découvrir. Maintenant, mais il n'y a pas plus, c'est vrai qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ça, il y en a beaucoup. Mais si vraiment, il nous promet dans la parole, et Dieu l'a dit déjà aux Juifs, en Deutéronome chapitre 4, il dit, celui qui cherche va trouver. Deutéronome 4, 29. Et puis, il le reprend dans son sermon sur la montagne, il dit, si vous cherchez, vous trouverez, si vous frappez, on vous souffrira. Et donc, il dit, et prends ton temps de chercher. Et cherche. Mais tant que tu cherches, et tu cherches de tout ton cœur, tu trouveras. Dieu se fera trouver, se laissera trouver. Je trouve toujours extraordinaire cette histoire de l'eunuque. L'eunuque, dans les épîtres des Actes, il était monté depuis l'Éthiopie, il est allé jusqu'à Jérusalem. Il a réussi à se procurer une copie d'un texte d'Ésaïe, parce que tout le monde n'avait pas accès à ça. Et surtout, s'il n'était pas un croyant, je ne sais pas comment il a pu l'obtenir, mais il a réussi à obtenir un texte, il savait lire, il a commencé à lire, et puis il retourne en Éthiopie avec son texte, mais avec toujours ces mêmes questions. Et il est là dans le désert, tranquillement, en train de, dans son char. Et puis Dieu, qui le voit, va prendre Philippe. Il dit, écoute, tu descends là-bas et tu vas croiser cet homme. Et Philippe arrive, il voit cet homme, c'est pas quelqu'un avec qui normalement il parlait, hein, parce que bon, ça c'est quelqu'un qui était associé au royaume de Candace. Et il court à côté, et puis il entend, il reconnaît la lecture. Il reconnaît que c'est le texte d'Ésaïe. Et c'est là où il s'approche et dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment est-ce que je vais comprendre si personne ne me l'explique? Il dit, ben quoi, bon, ben, je suis là. Et il est monté. Et Philippe, qui avait l'habitude de marcher, ben là, tout d'un coup, il se trouve dans la carrosse. Hein, et puis, les choses extraordinaires se passent. Mais Dieu l'a vu. Et depuis, même dans ma courte expérience, parce que je suis très jeune, hein, n'est-ce pas, dans ma courte expérience, eh bien, j'ai rencontré des personnes qui ont cherché et qui ont trouvé. Et ils ont trouvé sans personne. Ils ont trouvé la Bible, ils ont trouvé la parole, et puis peut-être à petit, un peu par-ci, un peu par-là, et puis ça se met en place. Mais c'est découvrir Dieu. Il dit, celui qui me cherche me trouvera. Et Dieu est, et peu importe avec quelles idées on arrive, la question c'est que l'on cherche sincèrement. Et il se révèle. Ici encore une fois, au verset 13, nous voyons que la grâce de Dieu. C'était un peu ce qu'on avait vu au début du chapitre. Trois premiers versets, il nous dit ce que nous étions autrefois, ceci, cela, tout ça. Verset 4, mais Dieu, et c'est là la grâce de Dieu, Dieu intervient. Ici, nous avons un peu la même chose au verset 13. Hein, il vient de dire aux Juifs, il dit, vous aviez vraiment en piteux état. Vous ne pouviez rien, vous n'aviez rien, vous étiez privés de tout. Mais verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Pas par l'éducation, parce que les Grecs, ils avaient, hein, c'était à l'époque, hein, c'était avant Jésus-Christ, c'était des grands philosophes qu'on respecte encore aujourd'hui, et ils étaient là, hein, l'éducation était là, mais pas Dieu. Et il dit, mais ce qui vous a rapproché, eh bien, c'est le sang de Jésus-Christ. Et en fait, vous cohabitiez, il y avait les Juifs, et vous étiez là, vous cohabitiez, mais vous n'aviez rien. Mais le sang de Jésus-Christ, quand le sang de Jésus-Christ a commencé à agir dans certaines personnes, ça a commencé à rapprocher. Et le sang de Christ a rapproché des gens qui normalement ne se seraient jamais rapprochés les uns des autres. Et le sacrifice de Christ n'a pas seulement ouvert la porte aux païens, mais en plus, il a détruit le mur de séparation. Et il emploie cette expression, hein, au verset 14, il dit, il a renversé le mur de séparation. C'était vraiment un mur. Et on sait un peu de nos jours ce que c'est qu'un mur. On a entendu parler de celui qui coupait l'Europe en deux. Et puis, ces derniers temps, on a entendu parler de celui qu'un certain candidat à la présidence parlait de mettre un mur aussi. On sait ce que c'est qu'un mur. Il y a, en Israël, actuellement, ils sont en train de mettre un mur sur la frontière. Je l'ai vu. Un mur, séparation. Et c'est pas naturel pour l'être humain qu'il y ait de tels murs. Mais bon, aussi à un autre niveau, peut-être il n'y a pas des murs physiques, mais il y a des murs entre certaines personnes, il y a des murs entre certaines communautés, même de nos jours, et même ici en France. Et les murs, c'est jamais la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé de murs dans le jardin d'Éden, parce que normalement, l'être humain ne doit pas avoir de murs, ni entre nous, ni entre les hommes et Dieu. Et donc, il y a une réconciliation qui est indispensable et que Dieu met en œuvre, et grâce au sang de Christ. Vous retrouverez deux fois qu'il emploie le mot inimitié. Donc au verset 14, il dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ou la haine. » Et ensuite au verset 16, il dit « Les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. » Et donc il traite, il y a deux niveaux d'inimitié, de séparation. Il y a celle, la première, c'est celle qui existe entre le juif et le grec. Et la deuxième, c'est celle qui existe entre l'être humain et Dieu. C'était l'état des choses. Mais l'œuvre de Christ, la croix de Christ et le sang de Christ, lorsqu'il intervient dans le message de l'évangile, eh bien, non seulement est-ce qu'il sépare le mur au niveau horizontal, mais il détruit le mur au niveau vertical aussi. Et vous connaissez bien ce passage dans 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21, où il dit « Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu n'arrives pas à aimer ton frère. » Parce que le même sang qui a détruit la séparation qui existe entre l'homme et Dieu, c'est le sang qui détruit la séparation entre moi et mon frère. Il dit, si l'un n'a pas agi, l'autre n'a pas agi. Hein, oui, ne fais pas d'illusion. Le sang de Christ, lorsqu'il intervient, il fait son œuvre dans le cœur. Il y a une chose, bien sûr, je commence à aimer Dieu, que peut-être j'avais d'autres sentiments vis-à-vis de lui avant, et tout d'un coup, il prend un sens. J'étais en train de lire une circulaire ce matin qui... prière qui venait du Maroc et il parlait de ces personnes qui étaient devenues athées, qui avaient pratiqué leur religion et puis ensuite qui étaient devenues athées, mais maintenant qui ont entendu parler de Christ, et tout d'un coup il y a une autre attitude, un autre sentiment. Ça, c'est l'œuvre de l'évangile. La première étape, c'est cette réconciliation entre le juif et le païen, et ce n'était pas simple. Il suffit de lire Actes chapitre 11 et Actes chapitre 15. Actes chapitre 11, vous avez Pierre avec son songe et ce drap avec tous les animaux. Et puis aussi chapitre 15, c'est le concile de Jérusalem qui traite de cette question-là. Mais vous savez, dans l'église d'Éphèse, il y a des païens et il y a des juifs, et les deux sont réconciliés, mais ils sont là à cause de la foi. C'est la foi, c'est par la foi qu'ils sont là et pas autre chose. La foi, ils sont sauvés par la foi, et c'est ce qui les a mis dans l'église de Christ. Le mur de séparation, il y avait Hérode, quand il a construit le temple à Jérusalem, il avait construit un beau temple, mais après il y avait une cour pour les hommes juifs, il y avait une cour pour les femmes juives. Et après, il y a un autre mur qui séparait, et au-delà desquels un non-juif ne pouvait pas avancer. Il y avait un mur de séparation. Le non-juif pouvait aller... C'est ça, et c'est pour ça qu'ils se sont... Avec Paul, un jour, ils se sont fâchés avec lui, ils allaient le tuer, parce qu'ils ont cru qu'il a fait passer un païen, il l'a fait passer de l'autre côté. Pour eux, c'était un mur réel. Bon, il était physique, mais aussi dans leur pensée. Un païen ne rentre pas ici, ça c'est pour les juifs seulement. Ça, c'était dans leur tête, dans leur culture, ils étaient éduqués avec ça, ils ne pouvaient pas penser autrement, et pour eux ils trouvaient ça très normal. Il a fallu que les Romains viennent et démolissent Jérusalem en l'an 70, et démolissent le temple pour enlever ce mur. Mais vous savez, vous pouvez enlever la mur physique, mais ce n'est pas pour ça que c'est enlevé du cœur. Vous savez, on peut, on le sait ici en France, on a des lois qui ont enlevé tous les murs. On est tous égaux, il n'y a pas de distinction. Mais la réalité, ça peut être autre chose, parce que le mur peut encore exister dans le cœur de certains. Et donc, dans le cas de Dieu, c'est pas seulement, il a dit, non, c'est pas seulement que le mur physique est enlevé, mais il faut que le mur soit enlevé dans le cœur de chacun. Et là, c'est seulement le sang de Christ. Lorsqu'on comprend le message de la mort de Christ, ce n'est pas seulement le sacrifice, mais aussi Dieu. il y avait une séparation entre l'homme et Dieu à cause du péché. Et Dieu, au lieu de nous dire, ben écoutez, moi, j'ai pas besoin de vous, et puis bon, ben, tant pis pour vous. Non, il s'est intéressé à nous, il est venu jusqu'à nous, il a cherché la réconciliation, il a réglé le problème, il a pris sur lui tous les frais de la réconciliation pour nous offrir. Et d'ici, on reçoit un tel message, et on le trouve extraordinaire, et on est content de pouvoir être réconcilié à Dieu, mais il a dit, mais comprenez que si... Ça vous devez aussi étendre ce même amour à ceux qui vous entourent, ceux qui sont près de vous. Et donc l'apôtre Paul pourra dire aux Galates, chapitre 3, verset 28, parce qu'eux, ils avaient un problème, mais ils étaient très attachés à la loi. Et donc c'est dans Galates qu'on trouve ce passage. Galates, chapitre 3, verset 28, il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre ». Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction. Il dit, il y a, bien sûr qu'il y avait des maîtres et il y avait des esclaves au dehors. Mais quand il rentrait dans l'Église, plus de distinction. Il dit, il n'y a plus juif ni grec, plus maître ni esclave, plus homme ni femme. Ils sont pareils, parce que les juifs, ils avaient un problème aussi hein, par rapport à l'homme juif, il avait un sentiment de supériorité par rapport à la femme juive. Hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y avait vraiment un problème, hein, au point où il remerciait Dieu d'être un homme. Et tout ça, ça devait être réglé. Et tout ça, ça devait être réglé dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, c'est extraordinaire comment l'Église de Jésus-Christ, c'est un endroit où on prend les gens tels qu'ils sont, avec toutes leurs idées farfelues, et puis on les amène, et puis après, l'œuvre de Dieu fait un travail, et le sang de Christ fait un travail. L'Église primitive avait commencé avec un message de réconciliation. Regardez, Actes chapitre 15, je vais juste, pour en prendre un exemple, on va prendre Actes chapitre 15, parce que c'était une grande lutte, hein, parce que vous savez que l'Église de Jésus-Christ a commencé avec chez les Juifs, puis après il fallait que ça s'étende, mais il fallait régler ce problème. Et donc dans Actes chapitre 15, donc, nous avons ce concile de Jérusalem, un grand concile où il fallait traiter de cette situation, parce qu'il y avait des païens qui s'étaient convertis. Et alors, est-ce que c'est normal, que c'est possible? Et alors, vous pourrez lire tout le chapitre, si vous voulez, plus tard, mais j'attire votre attention sur le verset 9. Donc, c'est les conclusions qu'il tire. Verset 9, il dit, il n'a fait aucune différence. Ils sont en train de constater que Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. C'est pas qu'ils se sont convertis à notre pensée et ils sont devenus juifs, c'était comme ça qu'ils voyaient les choses avant. Il dit non, Dieu ne fait aucune différence et ont purifié leur cœur par la foi, comme nous. Et regardez verset 11, il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que les païens. Et finalement, ils sont arrivés à la constatation, mais Dieu les sauve comme ils nous sauvent. Nous sommes sauvés par la foi, ils sont sauvés par la foi. Nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ, c'est une grâce de Dieu parce que Christ est mort. Eux, ils sont dans l'Église parce que c'est une grâce de Dieu. Ils ont cru, Christ est mort, et il a payé cela. Il dit finalement, si Dieu ne fait pas de différence, nous ne devons pas faire de différence. Bon, c'est une chose de le croire dans le cœur, et après il y a eu toute une rééducation dans la tête, hein, ça je comprends, et c'est pour ça que nous devons être patients les uns avec les autres, et voir cela, et c'est pour ça que j'ai déjà rencontré des couples où l'un est arabe et l'autre est juif. C'est pas possible. Ah oui, mais parce qu'ils sont en Christ, c'est possible. J'ai rencontré des églises où on se retrouve, on est mélangé. On peut rentrer à des églises où il y a d'autres sortes de séparations. J'étais en Bulgarie et là, les gitans sont... Ils n'existent pas. Officiellement, ils n'existent pas. Pourtant, ils sont là. Mais après, quand on arrive dans l'église de Jésus-Christ, ah, ils existent. Dieu les a sauvés, ils existent. Et j'étais là, et c'était un problème qu'il fallait une rééducation dans la tête des Bulgares. Parce que quand il vient à Christ, et ben celui-là, c'est mon frère. C'est l'œuvre de l'évangile. Vous savez, dans le monde, on essaye, on passe des lois, on a des conférences, on essaie de toutes sortes de choses pour essayer d'établir l'égalité de tout le monde. Et vous savez, on en parle, on a les droits de l'homme, on a des belles choses, des beaux documents. Mais dans la réalité, c'est pas là. Parce que dans le cœur des personnes, c'est pas là. Hein, on peut avoir des beaux documents, mais si il n'y a pas de changement dans le cœur. Tandis que si l'œuvre de l'évangile nous permet d'aimer n'importe qui et de le pardonner, il vient dans le corps de Christ, il rentre dans le corps de Christ, je le reçois. Dieu l'a reçu, comme il m'a reçu, je le reçois. Et donc l'Église primitive a dû passer par là. Mais regardez maintenant Éphésiens chapitre 2, verset 18. La beauté de la chose, il dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Juif, grec, celui-là, il pratiquait la magie, celui-là, il donnait tout pour la déesse Diane, celui-là, c'était... Il dit, mais tous ont accès auprès du Père par un même esprit, Jésus-Christ. Ça, c'est le message de l'évangile. Et c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, est-ce que c'est toujours comme ça dans les églises? Alors, j'ai assez circulé pour savoir que ce n'est pas toujours ça. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. C'est que nous puissions représenter la pensée de Dieu. Et qu'il puisse avoir, avec tout en reconnaissant toutes les variétés, et personne n'a besoin de renoncer à ses origines, ni à sa nationalité, ni son culture, ni rien du tout. Mais on devient un en Christ. Dieu est un Dieu qui n'aime pas l'uniformité, il aime la variété dans l'unité. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. C'est pour ça que j'aime Jésus-Christ et la Bible. Et c'est pour ça que je suis prêt à donner ma vie à cela. Parce que j'y crois et que c'est possible, et je l'ai vu se faire. Et maintenant, quand il nous dit « Jésus est notre paix », on comprend ce que ça veut dire. Parce que des congrès et des choses qui parlent de la paix, il y en a. Mais ça ne change rien. Mais là, Dieu, en la personne de Jésus-Christ, établit la paix. Il prend sur lui ce qui pourrait nous séparer pour que nous ayons cette paix. Et la paix, ce n'est pas parce qu'on se ressemble et pas parce qu'on pense pareil. La paix, c'est parce qu'on est en Jésus-Christ. Et il dit que, donc au verset 14, il dit, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, une unité. Il a renversé le mur de séparation, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et des prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Parce que Jésus-Christ est en train de créer un corps. L'Église est un corps. C'est un corps vivant. Et Jésus-Christ est la tête. Il a réconcilié l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et donc, maintenant, on peut parler de paix. La paix, c'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est quand les choses sont en ordre. Quand les choses se passent comme ça doit se passer. C'est là la paix. Et c'est ce que Dieu veut créer, et ce qu'il veut restaurer. C'est ce à quoi il pensait quand il a créé l'être humain. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est plus on se rapproche de ce que Dieu a pensé, plus ce sera notre milieu. Hein, ça commence à être, c'est comme le poisson qui se retrouve dans l'eau. Ben il est bien. Parce qu'il a été créé pour cela. Et lorsque l'être humain se trouvera bien, lorsqu'il se trouvera dans la sphère de la pensée de Dieu, parce qu'il a été créé pour cela, et c'est là qu'il se trouve bien, et donc c'est la paix, parce que c'est l'ordre. Donc Jésus-Christ est notre paix, et nous y accédons tous par la foi, grâce à l'œuvre de Christ sur la croix. Christ est mort, pas seulement pour nous enlever les péchés, mais ensuite pour nous rassembler en un seul corps et créer cette unité. Et l'apôtre Paul, il en parle, et nous savons que c'est la pensée de Dieu. Et lorsque je vois qu'il y a des choses, il me reste encore des restes de ce que j'ai hérité de ma vie passée, de mon passage dans le monde, et tout ça. Et je vois qu'il y a, des gens que j'ai dit, Seigneur, que le sang de ta croix œuvre dans mon cœur. Purifie mes pensées et mes valeurs pour que je pense comme toi et que je le vois tel que tu le vois. Ben je connais, je vois, j'ai beaucoup à faire avec des gens. Je n'approuve pas leur mode de vie. Mais eux, je les aime. Et je ne vais pas citer des choses parce que je ne veux pas en exclure. Mais vous savez, on peut penser au pire des choses. J'ai eu affaire avec des meurtriers, j'ai eu affaire avec toutes sortes de choses. Vous savez, on n'approuve pas la chose, mais on aime la personne. Et la personne est transformée. Vous savez, Moïse était un meurtrier. L'apôtre Paul était un meurtrier. Mais ce n'est pas ce qu'il était qui importe, c'est ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Et c'est ça l'espoir que nous avons tous. Ce n'est pas ce que nous étions, ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a fait subir, c'est ce que je trouve en Dieu maintenant. Et c'est là mon avenir, c'est là mon espérance. Et c'est ce qui me permet de lever la tête dans notre monde. Donc j'espère que c'est soit vous devez recevoir ce message de l'amour et vous réconcilier à Dieu. Et il y a cette œuvre, et Dieu est prêt à pardonner. Et celui qui vient à lui par la foi, reconnaissant que Christ est mort sur la croix pour lui. Et puis il y a celui qui a dit, j'ai déjà obtenu la vie éternelle, mais il y a encore des choses à régler dans mon cœur. Il y a encore des sentiments à régler. Eh bien Seigneur, je veux que tu fasses cette œuvre-là aussi. Que ce n'est pas seulement des politesses que j'ai avec les autres, mais que ce soit réellement l'amour. Et un désir réel, qu'on soit vraiment un. Et que celui qui vient de l'extérieur, il met les pieds ici, et puis dit, il y a autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a autre chose. Je me rappelle souvent à Saint-Denis, il y avait des personnes qui venaient. Je dis, pourquoi vous êtes... Je dis, bon, ils viennent la première fois. Je dis, mais bon, la première fois, vous êtes venu par curiosité, un touriste, on vous a traîné, peu importe. Mais pourquoi vous êtes revenu la deuxième fois? Il a dit, parce que j'ai vu le comportement des uns et des autres, ensemble, ce mélange ensemble, et j'ai su qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça que je suis revenu. Vous savez, c'est le message qu'on peut donner, qu'on doit donner, parce que c'est le message de l'Évangile. La religion, ce n'est pas la réponse. Ça crée des divisions, ça crée des guerres, ça fait toutes sortes de choses, vous le savez aussi bien que moi. Mais pas l'amour de Jésus-Christ. Ça a uni ceux qui ne pouvaient pas s'unir. Et c'est ça que nous voulons prêcher, c'est ça que nous voulons vivre. Prenons quelques instants de silence et que chacun prie en fonction des besoins de son cœur. Et ensuite, je conclurai par la prière.